L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter au programme. Aujourd'hui, retour sur la première tournée africaine d'Emmanuel Macron et question dans un instant sur la fin régulièrement annoncée de la France-Afrique. Nous irons au nord-est du Québec pour entendre des femmes autochtones dont la parole se libère pour dénoncer des agressions commises il y a plusieurs décennies. Nous irons en Suisse pour une affaire de harcèlement au sein du Parlement fédéral. Au programme également, la sécurité sur les rails belges, une nouvelle fois mise en cause après de nouveaux accidents mortels. Et puis nous reviendrons sur l'humour politique à la française avec le prix de l'humour politique remis cette semaine à François Hollande pour l'ensemble de son œuvre. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Sur RFI, le portrait de la semaine, Charlotte Hydrac, celui de l'écrivain Thierno Monet-Nembo. Il a reçu jeudi le grand prix de la francophonie de l'Académie française.
Oui, grand prix pour un grand écrivain, le Guinéen auteur d'une douzaine de livres, Le Roi de Kehl, entre autres, prix Renaudot en 2008. Et quand on lui demande quelle est sa définition de la francophonie, il répond que c'est un mot africain au départ, que les Français ont tendance à considérer que les francophones, ce sont les autres. Ce qui n'est pas juste, dit-il, parce que la francophonie est un ensemble indivisible.
En Suisse, Joël Marchetti, votre personnalité de la semaine est un nouvel élu et il s'appelle Dominique de Bumont.
Dominique de Bumont a été élu en effet cette semaine président du Conseil national, la Chambre du Peuple. Ici en Suisse, c'est toujours un événement. Ce fribourgeois de 61 ans, démocrate chrétien, est donc pour un an le premier citoyen du pays. Il a été fêté comme il se doit par sa région d'origine. Et c'est pas chaque année qu'un francophone accède à cette fonction. Dominique de Bumont est connu pour plusieurs de ses combats, notamment justement pour la défense des minorités linguistique.
La presse française a multiplié cette semaine les articles sur Jacques Chirac qui vient de fêter ses 85 ans. Chirac reste l'un des anciens présidents les plus appréciés des Français, mais les images de lui restent assez rares. Ses proches font barrage pour éviter toute photo qui le montrerait très affaibli par ses troubles neurologiques. Or, de l'aveu même de sa fille Claude, Jacques Chirac va mieux qu'il y a un an. Il faut dire qu'à la même période, il y a un an, Jacques Chirac avait été hospitalisé pour une infection pulmonaire. En Belgique maintenant, Nathalie De Vic, le ministre des Affaires étrangères, a subi un sérieux revers lors de son déplacement au Congo.
Didier Reynders s'est rendu à Kinshasa pour inaugurer la nouvelle ambassade belgo-néerlandaise, mais la cérémonie a été boudée par la présidence congolaise, qui n'a envoyé sur place que des seconds couteaux, aucun ministre, malgré l'envergure du projet. L'un des premiers bâtiments écologiques presque entièrement passifs d'Afrique centrale, 4000 mètres carrés pour 200 employés, belges et hollandais. Il aura coûté plus de 10 millions d'euros. Privé donc de rencontres officielles, le ministre est du coup descendu dans les quartiers populaires de la capitale pour y distribuer lui-même de l'aide aux nécessiteux, histoire de se rendre utile, au risque, tant pis, de ne pas arranger les tensions diplomatiques entre les deux pays, des tensions nées de déclarations mal perçues de part et d'autre.
Au Canada, Dominique Brassard, les amateurs de musique populaire pleurent la mort du chanteur Patrick Bourgeois.
Lui et son groupe, les Bébés, ont marqué par leurs mélodies accrocheuses et leurs textes en français. En voici d'ailleurs un court extrait.
Tu ne sauras jamais pourquoi mes mains flambent dans tes cheveux.
Patrick Bourgeois avait 55 ans, il a succombé à un cancer. Le groupe Les Bébés a été très populaire ici dans les années 90. Il avait effectué un retour en 2011.
Retour donc sur la visite d'Emmanuel Macron à Ouagadougou et pour sa première tournée africaine, suivie d'une séance de questions-réponses avec les étudiants. Et bien vu de Burkina Faso, Charlotte Hydrac, qu'est-ce qui a été le plus marquant ?
Alors pour la presse burkinabé, c'est le style, hein, le ton, grand oral réussi pour Jupiter, a titré l'observateur Palga, même pas peur des étudiants, il a eu du cran, il a abordé tous les sujets gênants, estime le quotidien aujourd'hui, France CFA, démographie notamment, même si le journal note un emploi intempestif du « je veux ». Quant au quotidien Le Pays, il s'interroge, il est venu, il a parlé, et après, depuis Jacques Chirac, tous les présidents ont annoncé la mort de la France-Afrique, estime le journal, qui pourtant leur a tous survécu.
Dans la presse, Charlotte, peu de commentaires sur la plaisanterie d'Emmanuel Macron envers son homologue burkinabé. En revanche, ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux.
Oui, interrogé sur les problèmes de coupure d'électricité à l'université, Emmanuel Macron répond
« Mais moi, je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation.
Et cela a enflammé la toile. Les internautes burkinabés ont dénoncé un manque de respect, l'arrogance du président français. Mais à l'université Ouagadougou, pour les étudiants, en fait, le vrai sujet, ça a été la prestation de leurs camarades. Le niveau des questions, pas à la hauteur pour beaucoup, alors que l'université est considérée comme l'une des meilleures d'Afrique francophone.
Dominique Brassard, avec vous, on part à l'est de la péninsule du Québec-Labrador, là où des femmes autochtones ont déclaré sous serment, devant une commission d'enquête publique, avoir été agressées par un missionnaire belge entre 1954 et 1992.
Des femmes inoues de la Côte-Nord en ont fait part aux audiences de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Voici d'ailleurs quelques témoignages en langue inoue, mais traduits en français.
J'ai un de mes neveux que le prêtre a abusé. C'est eux-mêmes. Souvent, on était une gang de filles, puis les prenaient à tour de rôle.
Le père missionnaire est aujourd'hui décédé. Certains témoins affirment qu'il aurait agressé des dizaines d'enfants. Il était tout puissant dans le village et certains le surnommaient même Dieu.
Et ça va plus loin, Dominique, puisque cette commission d'enquête se penche aussi sur des dossiers de disparition d'enfants autochtones durant les années 60-70.
Des enfants et parfois des bébés qui étaient envoyés à l'hôpital par avion sans leurs parents pour recevoir des soins médicaux, mais les services sociaux les plaçaient ensuite dans des familles blanches sans le consentement de leurs parents autochtones. Une femme m'a raconté à Radio-Canada que sa sœur était ainsi disparue.
C'était vraiment marqué « abandon des parents ». J'ai emmené ce document-là à ma mère, j'ai traduit le document. Elle se souvenait qu'elle avait signé un document, mais le curé lui disait c'est pour qu'elle puisse être soignée.
On ignore pour l'instant s'il y avait ou non une directive gouvernementale précise ordonnant le placement de ses enfants.
En Suisse, Joël Marchetti, les affaires de harcèlement viennent d'atteindre le Parlement fédéral.
On a appris cette semaine que le conseiller national démocrate chrétien Yannick Butet a eu des comportements inappropriés. Dans ce registre, il est d'une part sous le coup d'une plainte pour une affaire privée, mais d'autre part, plusieurs femmes du Parlement ont témoigné sous couvert d'anonymat pour dénoncer des agissements inappropriés. Et cette affaire a libéré la parole pour d'autres cas. Plusieurs élus femmes dénoncent aujourd'hui le comportement de certains hommes dans l'enceinte du Parlement. Par exemple, la conseillère nationale Céline Amoudru a choisi de livrer son témoignage. Écoutez.
J'ai été victime à plusieurs reprises, que ce soit de propos déplacés, mais ça je peux encore répondre parce que finalement un politicien doit être capable de répondre, même si ce n'est pas normal, mais de gestes déplacés. Et ça malheureusement, je dois dire que je n'ai pas la force de répondre par un geste déplacé. Parce qu'on a peur.
Peur de quoi ?
Bah, que la personne aille plus loin, avec certaines personnes, je ne prends plus l'ascenseur. Parce que ça a été suffisamment loin, et il y a des actes qui se sont passés très récemment, donc aujourd'hui je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire ou pas ? Mais cela encore une fois, je n'en ferai pas part dans les médias, c'est quelque chose que je verrai à titre privé.
Parler aujourd'hui, ça a été une décision difficile à prendre pour vous ?
Ça a été une décision excessivement difficile, parce que soit on considère que finalement vous êtes faible, parce que vous n'avez pas su rétorquer au moment voulu, soit parce que lorsque vous êtes une victime, on va dire que vous êtes peut-être la cause de l'agression, quand vous êtes une femme, souvent on dit la femme est aguicheuse, la femme sourit. Donc oui, ça a été une décision excessivement difficile. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un début en tant que femme de dire oui, on subit des choses qui ne sont pas normales et je veux l'assumer.
Et aujourd'hui, plusieurs élus plaident pour la création d'une cellule de soutien au sein du Parlement.
Le rail belge endeuillé par la mort de deux cheminots qui travaillaient le long des voies, c'est un nouvel accident de train, Nathalie De Vic, et tous, désormais en Belgique, reposent la question irrésolue de la sécurité sur les rails.
Oui, un double accident. Un train a d'abord percuté une voiture bloquée sur un passage à niveau sans faire de victimes. Mais les cheminots ont dû travailler toute la journée pour réparer les dégâts sur la voie jusqu'à l'accident fatal en fin de soirée. Le train endommagé en cours de remorquage s'est scindé en deux, détaché de son convoi, sans moteur ni conducteur. Il a pris de la vitesse dans une pente, happant les ouvriers du rail. Deux sont morts sur le coup, 10 blessés. Le train fantôme, silencieux, sans phare, a poursuivi sa course folle sur une une quinzaine de kilomètres, traversant des gares jusqu'à s'encastrer dans un train de passagers, faisant de nouveaux blessés. Incompréhension, fatalité, les syndicats des cheminots dénoncent des conditions de travail dégradées, des exigences trop fortes de productivité. C'est le quatrième accident déjà depuis la fin de l'été.
Travailler dans des conditions qui sont particulièrement pénibles, où une pression est exercée sur le personnel, peut évidemment faire en sorte que les règles de sécurité, même si elles sont mises en place, peuvent conduire malgré tout à des accidents. Il est évident qu'un travail de nuit augmente le risque d'accident, et donc c'est un phénomène qu'on a déjà dénoncé également, en disant que normalement le facteur risque augmente du fait que les prestations s'effectuent la nuit.
Et pourtant, la semaine dernière encore, inquiet du nouveau plan d'entreprise qui prévoit des pertes d'effectifs, les syndicats avaient rencontré la direction pour l'alerter quant au manque de sécurité sur le réseau ferroviaire, plaidant justement pour limiter les interventions de nuit. Alors, erreur humaine ou technique dans ce cas précis, 4 enquêtes en interne mais aussi judiciaires vont devoir le déterminer. Mais déjà, les ministres en charge du rail promettent de repenser la police des chemins de fer et de renforcer notamment les moyens de communication. À l'heure où elle se fait partout de façon quasi instantanée, le paradoxe est cruel. Équiper les ouvriers d'une simple radio pour les avertir de l'imminence d'un danger pourrait déjà tellement aider.
En France, c'est un prix attendu chaque année depuis près de 30 ans, le prix de l'humour politique, prix présidé par un collège de journalistes et d'humoristes. Il a été remis cette année à François Hollande pour l'ensemble de son œuvre. L'ancien président reconnaît d'ailleurs qu'il manie facilement l'humour, qu'on le lui a même parfois reproché. L'humour, revendique-t-il, comme une maîtrise de soi pour rester serein lors des séquences les plus tendues au sommet de l'État. Et puis c'est évidemment par un trait d'humour que l'ancien président est allé sur scène recevoir son prix.
Je salue tous les lauréats et je prends conscience qu'un hommage donc m'est rendu. Il était temps. Je le prends très au sérieux. Alors pour terminer, j'ai bien compris que c'était l'ensemble de mon œuvre qui était saluée ce soir. Je parle de ce domaine-là. Mais je vais ici vous faire une révélation. Mon œuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là. Merci.
Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Voilà donc François Hollande en recevant ce prix de l'humour pour l'ensemble de son œuvre. Il succède à Bruno Le Maire. Il avait été récompensé l'an dernier pour sa phrase désormais célèbre « Mon intelligence est un obstacle ». À noter qu'un prix spécial du jury a récompensé Nicolas Hulot pour une phrase prononcée lorsqu'il a renoncé à l'élection présidentielle en France. « J'ai refusé d'y aller », avait-il dit, « car j'avais peur d'être au second tour ». Voilà quelques exemples d'humour en politique à la française. Humour politique pas toujours volontaire. C'était le tour d'horizon de l'actualité francophone. Merci aux contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de Belgique et la France évidemment. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.